Radio Okapi.
Des hommes identifiés comme des éléments du M23 sont accusés dans le meurtre de plus de 19 personnes dans le territoire de Walungu. Selon la députée provinciale Béatrice Nanvano, élue de Walungu qui livre l'information, ces civils ont été abattus jeudi dernier. Au Nord Kivu, les autorités du M23 ont récemment émis des bulletins scolaires pour l'année 2024-2025. Elles imposent à toutes les écoles publiques et privées d'acheter ces bulletins au prix de 1000 francs congolais l'unité. Cette mesure soulève de nombreuses interrogations parmi les acteurs locaux. Notre invité est Jonas Tchumbela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il s'exprime sur la campagne de lutte contre les abus de la SNEL que sa structure a lancée à Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal parlé et du matin. Ce journal part du Sud Kivu où des hommes identifiés comme des éléments du M23 sont pointés du doigt dans le meurtre de plus de 19 personnes dans le village de Bukera, groupement Kamisimbi, en territoire de Walungu. Selon la députée provinciale Béatrice Nanvano, élue de Walungu qui livre l'information, ces civils ont été abattus jeudi dernier. Plusieurs autres sources parmi lesquelles le député provincial Rukingira Mungwankonkwa Justin, également élu du même territoire, confirme cette information. Parmi les victimes figurent 9 membres d'une même famille tués dans l'explosion d'une bombe tirée depuis les positions occupées par ces rebelles. Ces élus condamnent cet acte perpétré contre les civils et lancent un appel à la communauté internationale pour mettre un terme à ces tueries dans cette partie de la RDC. On écoute Béatrice Nanvano se confier à Ronéline Tibonera.
Je tiens à dénoncer avec ma dernière énergie le massacre en répétition face à la population qui est devenue victime. J'ai dit avant l'accord de Doha, dans le village de Bukera, groupement de Kamisimbi, la journée n'était pas rose. Plusieurs familles ont été endeuillées par un massacre qui ne dit pas son nom. Plus de 19 personnes ont été tuées. Et ceci amène la crainte à la population qui ne sait plus où se cacher. La population vit une vie très compliquée, une vie très difficile. Nous demandons à la communauté internationale de songer aux paisibles citoyens victimes de la guerre et que le jugement soit fait.
En Ituri, les miliciens de la CODECO poursuivent leur offensive contre la milice Zaïre. Ils ont aussi pris le contrôle de Nizi à environ 30 km au nord de Bunia, après l'OPA dans le territoire de Djougou, renseigne des sources locales. Les bilans provisoires est de 3 morts et un blessé à Nizi. On signale également les déplacements massifs de population dans ces entités. Même les casques bleus de la MONUSCO ont été pris pour cible à l'OPA pendant leur intervention pour sauver certains civils. Isaac Remoyope.
Des échanges de tirs ont été signalés lundi dans l'après-midi à Nizi, à une trentaine de kilomètres au nord de Bunia. Les miliciens de la CODECO poursuivent la traque des éléments des Zaïre. Des sources locales rapportent un bilan provisoire de 3 morts et un blessé dans ces affrontements. La population prise de panique a fui en masse vers des zones jugées plus sûres. À l'OPA, autre localité visée par la milice CODECO, des tirs sporadiques ont été entendus cet après-midi. La situation y reste tendue, d'autant plus que les miliciens ont ouvert les feux sur une patrouille des casques bleus de la MONUSCO intervenue pour secourir 7 civils pris au piège dans une maison. Parmi ces civils, des prêtres, des femmes et 3 enfants qui ont été évacués sains et saufs de l'église où ils s'étaient réfugiés. Les casques bleus ont dû riposter vigoureusement pour sauver des vies humaines. Pour le moment, les miliciens de la CODECO contrôle les localités de Nizi et Lopa, désormais presque vidées de leur population. La tension monte également à Iga Barrière, où les habitants commencent aussi à fuir. À conséquence, le trafic est suspendu sur la route nationale numéro 27 entre Bunia et Maegi, ainsi que sur l'accès Iga Barrière Mungwalu, un couloir vital pour les ravitaillements de Bunia et des zones minières en produits de première nécessité. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En plus bref, avant d'aller plus loin, l'ONG internationale Médecins sans frontières suspend ses activités de lutte contre le choléra pendant 48 heures dans la province de la Tchopo. Cette mesure a été annoncée via un communiqué publié sur X lundi 21 juillet après l'attaque d'une base de cette organisation humanitaire à Kisangani le dimanche 20 juillet. Médecins sans frontières alerte les autorités sur la gravité de cette attaque qui a pris pour cible une base clairement identifiée. Plusieurs biens, dont des ordinateurs et téléphones, ont été volés au cours de cette attaque, déplore Médecins sans frontières. L'ONG internationale exprime sa vive inquiétude face à cette attaque ciblant son personnel et ses infrastructures. Au Nord Kivu, les autorités du M23 ont récemment émis des bulletins scolaires pour l'année 2024-2025. Elles imposent à toutes les écoles publiques et privées d'acheter ces bulletins au prix de 1000 francs congolais l'unité. Selon les effectifs de ces élèves, chaque établissement doit déposer les montants équivalents à la CADECO. Cette mesure soulève de nombreuses interrogations parmi les acteurs locaux. C'est notamment la question de la validité de ces bulletins qui est mise en doute. Face à cette situation, plusieurs acteurs sollicitent la médiation de l'UNICEF et de l'UNESCO pour freiner cette ingérence du M23 dans les systèmes éducatifs, une ingérence perçue comme une grave atteinte. Les points avec vous, Alain Rungmoshinj.
Selon de nombreux témoignages recueillis à Goma, les autorités du M23 en charge de l'éducation ont tenu une réunion la semaine dernière avec les différents regroupements d'acteurs éducatifs, tant publics que privés. L'information majeure communiquée lors de cette rencontre est que toutes les écoles doivent impérativement acheter le bulletin scolaire produit par le M23 à Goma. Aucune exception n'est faite, même pour les écoles qui ont déjà proclamé les résultats avec les bulletins du gouvernement, bulletins de l'année passée, qui étaient en stock au niveau des sous-divisions. Cependant, de multiples interrogations fusent. Quelle sera la validité de ces bulletins? Seront-ils acceptés dans les autres provinces du pays? Enfin, comment les écoles vont-elles justifier et demander le montant de ces bulletins aux parents? C'est pourquoi des acteurs à Goma qui ont requis l'anonymat appellent l'UNICEF qui a facilité l'acheminement des questionnaires des épreuves certificatives de Kinshasa à Goma à rencontrer les autorités du M23. L'objectif est de faire la lumière sur cette mesure jugée arbitraire et sans fondement. D'autres sollicitent également l'intervention de l'UNESCO, un autre acteur majeur du domaine.
Entrons dans le chapitre des réactions sur l'accord des principes de Doha. Commençons par le député national Willy Mishiki, élu du territoire de Walikale au Nord Kivu, salue la détermination du président américain Donald Trump ainsi que celle de son envoyé spécial Massad Boulos dans la signature de l'accord des principes entre la délégation de la RDC et celle du M23 à Doha le week-end dernier. Selon cet élu national, aucune des parties ne peut se considérer comme gagnante ou perdante à ces stades. Il perçoit cette démarche comme une avancée vers la résolution d'une crise ayant coûté la vie à de nombreuses personnes dans l'est de la RDC. Cependant, face à la multiplicité des acteurs présents sur le terrain et à leur rôle dans cette crise, Willy Mishiki estime qu'il serait pertinent d'associer les Wazalendo dans la suite des discussions en vue de la signature d'un accord global et inclusif pour instaurer la paix dans les zones occupées. Il s'est exprimé au micro de Ronelin Tibonera.
Cet accord sera encore plus complet si les VDP, communément appelés Wazalendo, y étaient impliqués, puisque le cessez-le-feu doit être immédiat et l'application de cet accord va avoir lieu à partir du 1er août. C'était la condition que l'administration Trump avait donné au parti pour que la rencontre au sommet, au niveau de Washington, étant entendu, d'ici le 25 juillet, les deux chefs d'État du Rwanda et de la RDC doivent se rencontrer. Mais il ne fallait pas qu'ils se rencontrent sans qu'il y ait déjà un compromis trouvé avec le M23 FC. C'est pourquoi nous avons salué l'implication personnelle du chef de l'État américain et en particulier de ses émissaires dont Boulos et Massad qui ont pesé de tous les poids avec l'accompagnement de l'émir du Qatar pour que cet accord soit signé. Donc nous saluons les deux parties. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de Vinci. C'est la RDC qui gagne, c'est le peuple congolais qui gagne.
Au Maniema, l'Assemblée provinciale salue la signature de cet accord de principe car il va dans le sens de la restauration de la paix. C'est ce qu'a déclaré les rapporteurs de l'organe délibérant du Maniema. On écoute Dr Papi Omeonga Chopa au micro de Florence Kizalunga.
Pour la province du Maniema et particulièrement l'Assemblée provinciale du Maniema, nous saluons la signature de cette déclaration de principe qui montre, qui signe directement un cessez-le-feu entre le FARDC et l'Alliance Fleuve Congo et M23. Pour nous, nous saluons et nous soutenons cette signature, fait que ça nous permet d'avoir la paix et la paix durable. Et c'est à ce nom, au nom de toute la population de la province du Maniema qui nous a mandaté et au nom de notre institution, nous saluons et nous rendons nos hommages. Je le plie déférent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses efforts inlassables qu'il est en train de fournir pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Parce que nous, ici, on se sentait déjà très menacés. C'est-à-dire qu'il y a la province du Nord Kivu et Sud Kivu qui sont déjà occupées partiellement et que c'est à quelques kilomètres de chez nous, ici, au Maniema. On se sentait déjà très menacés. Mais avec cette signature-là, nous sommes vraiment réconfortés et tout le monde est derrière le chef de l'État.
Province du Haut-Katanga, le Conseil d'État annule la nomination de Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire de Lubumbashi par le vice-premier ministre de l'Intérieur et réhabilite la maire adjointe Joyce Tunda Chansa à ce poste. Cette dernière a dirigé Lubumbashi comme maire intérimaire après l'élection du maire titulaire au poste du vice-gouverneur du Haut-Katanga. Après la nomination de Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire, Joyce Tunda s'est senti lésée et a saisi la justice. Explication avec Paulin Munanga.
Ce lundi, le maire intérimaire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, s'est rendu normalement à son bureau et a travaillé comme de coutume. Une source à la mairie de Lubumbashi confie que le numéro 1 de la ville va continuer de travailler jusqu'à ce qu'il soit notifié de ces changements à la tête de la mairie. Pour rappel, le Conseil d'État a estimé par son ordonnance du 17 juillet dernier que la nomination de Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire de Lubumbashi par le vice-premier ministre de l'Intérieur a été faite en violation des textes. C'est notamment l'article 126 de la loi de 2008 portant composition, organisation des entités territoriales décentralisées et le décret loi de 1998 portant statut des autorités de l'administration territoriale. Signalons que cette ordonnance fait suite à une requête introduite le 18 juillet dernier par Joyce Tunda. Dans cette démarche, elle a dénoncé plusieurs irrégularités ayant entouré la nomination de Patrick Kafwimbi. Le Conseil d'État tranche en réhabilitant Joyce Tunda et rappelle que seul le président de la République, sur proposition du ministre de l'Intérieur, a le pouvoir de nommer les autorités locales. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans la province de la Lomami, début vendredi dernier des festivités du 75e anniversaire de la chefferie de Bakwamulumba, à près de 45 km du chef-lieu du territoire de Ngandanjika. Ces festivités ont été présidées par le vice-gouverneur de la province de Lomami, Célestin Kayembe, en présence de plusieurs invités et ressortissants du terroir venus de partout. D'après les organisateurs, l'objectif est de raffermir les liens entre les 10 groupements qui composent la chefferie de Bakwamulumba et de sceller un engagement collectif. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ce 75e anniversaire de la chefferie de Bakwamulumba est célébré sous le thème intitulé « Regard croisé sur le passé, le présent et sur l'avenir, histoire économique et développement, culture, agriculture et innovation ». Explication de Odia Musungai, l'un des organisateurs de cette célébration.
Ce thème invite à la réflexion et donne de l'espoir. Il nous invite à revisiter notre histoire glorieuse.
Devant quelques dignitaires ressortissants de cette chefferie, le grand chef Frédéric Baloji Katenda plaide pour le développement de son entité.
Dans vos prochaines rencontres pour le développement de l'agriculture, pensez au problème d'érection des forages dans tous les groupements. L'eau est insuffisante. Les femmes qui vont puiser l'eau à la rivière sont happées régulièrement par les crocodiles. Qu'on réhabilite la route Chikuinga-Nanjika. On est pendant la saison sèche. Mais combien d'heures avez-vous pris pour arriver à Nanjika?
Signalons que les habitants ont appuyé la demande du grand chef par des cris et des applaudissements. Depuis la cité de Ngandajika, Esther Ndalafina, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le deuxième procès de l'ex-aide de camp de Guillaume Soro s'est tenu ce lundi 21 juillet devant le tribunal criminel d'Abidjan. Entre autres chefs d'accusation, l'ancien militaire était cette fois jugé pour actes terroristes, attentats et complot contre l'autorité de l'État pour son rôle allégué pendant la crise électorale de 2020 qui avait fait plus de 80 morts. Le ministère public a requis 20 ans de prison ferme contre le commandant Abdoulaye Fofana et une dizaine de ses co-accusés. Ils sont des centaines de Maliens et de Burkinabés à avoir fui leur pays respectif pour se réfugier dans le département de Bakel, à l'est du Sénégal, non loin de la frontière avec le Mali. Ces réfugiés disent avoir fui des exactions de l'armée burkinabé et leurs supplétifs, des volontaires pour la défense de la patrie VDP ainsi que celle de l'armée malienne. La plupart d'entre eux sont logés à Ouro-Tierno, où ils bénéficient d'une assistance locale. Sur place, ils racontent leur calvaire.
L'invité.
Notre invité est Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il s'exprime sur la campagne de lutte contre les abus de la SNEL que sa structure a lancée à Kinshasa. Jonas Tchombela s'entretient avec Askin Zigbatayoro.
Monsieur Jonas Tchombela, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de lancer officiellement la campagne contre les abus de la SNEL. De quelle manière comptez-vous mener cette campagne?
La première mission, c'est d'abord de sensibiliser les victimes des abus de ce que la SNEL tentait de produire comme service, mais aussi de sensibiliser les citoyens, là où la SNEL a fourni le service de qualité, de payer selon la qualité des services qui lui a été fourni. Nous ne sommes pas seulement en train de faire pression sur la SNEL, mais aussi en train de dire là où la SNEL a bien fait, on doit le reconnaître et l'encourager. Et cette campagne pédagogique va aller dans le quartier. Nous avons mis en place des comités dans chaque district, dans chaque commune et dans chaque quartier. C'est ces comités qui vont relayer le travail, faire le travail de collecte de données sur terrain. Parmi les actions, il y a là où on n'a pas consommé l'énergie, on ne payera pas. Là où nous avons vu que le service n'était pas de bonne qualité, nous exigerons que nous puissions le régler de la manière dont il a été servi.
Alors, est-ce que votre initiative, vous en avez discuté en amont avec la SNEL ou c'est seulement une idée qui est venue sur base de plaintes des abonnés de la SNEL?
Nous sommes allés à la SNEL, nous avons rencontré le DG de la SNEL avec son équipe et nous avec notre équipe. Il nous a expliqué le problème que la SNEL éprouve dans la fourniture d'électricité à travers le pays. Nous nous sommes donné rendez-vous que dans les semaines qui vont suivre, la SNEL nous fera une note. À travers cette note, pour voir comment nous pouvons exploiter ce qu'il a soulevé comme préoccupation et mettre un courroie de discussion avec elle pour voir comment elle peut améliorer la qualité et certaines de ses plaintes, nous puissions voir dans quelle mesure, là où nous pouvons plaider, on mène le plaidoyer. Dommage pour nous, la lettre n'est jamais venue du côté de la SNEL. Nous nous trouvons maintenant dans le droit de nous défendre, nous les consommateurs qui sommes victimes.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait chevauchement par rapport à votre initiative? Parce que la SNEL, avec ses abonnés, deux fois, il y a des correspondances. Un abonné pense qu'il est maltraité, il peut aller au niveau du bureau de la SNEL se plaindre. Est-ce que ce schéma avec le vôtre, ce n'est pas un chevauchement?
Dans la salle, il y avait des gens qui avaient des lettres écrites à la SNEL depuis deux ans, une année, sans suite. Les plaintes sont fournies par-ci, par-là. Nous avions même une échantillon. Même le jour où le directeur de la SNEL, nous avions fait exprès pour amener une école qui a écrit à la SNEL et qui n'a jamais eu la réponse. Donc, ils ont un service de contentieux lourd. Quand je n'ai pas consommé le courant, on m'envoie une facture indue. Je dois réclamer. Mais quand vous réclamez sans suite, on va la reprendre dans la facture qui va venir. Le travail que nous faisons de la population, c'est de l'aider aussi à ce que la SNEL devienne fiable dans ce service. Il y a même un service de médiation qui peut jouer un pont entre nous et la SNEL ou entre un client X qui n'a pas été satisfait et avec la SNEL et la possibilité de solution. Il n'y a pas chevauchement. Par contre, ce sont des services qui sont défaillants.
Est-ce que votre service sera payant?
Nous sommes les humanitaires. Nous avons mis les avocats qui vont travailler gratuitement sur ce service. Et nous-mêmes, nous travaillons gratuitement. Il n'y a pas un bailleur derrière ça. Nous travaillons gratuitement parce que nous sommes portés par l'amour du pays. C'est ça aussi le patriotisme. Travailler pour que les services de l'État soient des services de bonne qualité. À toute personne qui voit cette action, peut venir au secours de ce collectif, ils vont se déplacer. On a des procès, ils vont dans les tribunaux, ils peuvent descendre sur le terrain pour faire le constat. Ça nécessite quand même des moyens. C'est un appel que nous lançons aux bonnes volontés du pays ou de l'extérieur du pays qui estiment que c'est une action citoyenne qui doit être accompagnée. Ils peuvent nous contacter, on verra dans quelle mesure on peut faire ce travail. Mais le service lui-même que nous offrons, il est un service gratuit.
Alors, pour terminer l'entretien, M. Jonas Tchombela, est-ce que cette initiative, ça va s'arrêter à mi-chemin? Comment vous pouvez la délimiter?
Notre problème, c'est que les services s'améliorent. Nous sommes conscients des difficultés de la SNEL, mais ce n'est pas une raison pour qu'on n'ait pas les services de bonne qualité. Donc, nous ne pourrons pas nous arrêter à mi-chemin. C'est pour cette raison que nous avons commencé par la phase pédagogique. Nous voulons que cette initiative ne soit pas notre œuvre, ça devienne l'œuvre de la population. Quand ils vont se l'approprier, ça deviendra plus notre travail. Et nous, on aura atteint le plus grand objectif, c'est que la population a appris à revendiquer ses droits. Et ça, notre objectif d'ailleurs.
Jonas Tchombela, je vous remercie.
C'est moi qui vous dis merci.
Notre invité Jonas Tchombela s'entretenait avec Askin Zigba Tayoro. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette grande édition du journal, coordonnée et supervisée par Pauli Mouzalia et Alain Rongomouchige, et mise en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix.